Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Ça va être une émission très cinéma aujourd'hui qu'on va vous proposer avec notre spécial Les Pires. Le film sort mercredi dans les salles. Lisa Coca, la co-réalisatrice, Mallory Wanek et Johan Eldenberg seront nos invités pour en parler. On va également parler de la sortie du film Nos Frangins avec Rachid Bouchareb, le réalisateur, qui sera accompagné de Samir Ghesmi et de Raphaël Personnas, qui seront là également d'ici une poignée de minutes. On va parler aussi de Maestro qui sort aussi dans les salles mercredi. Décidément, ça va être vraiment être une semaine cinéma avec Anne Gravoin, la directrice musicale du film, et Bruno Schisch, le réalisateur. On va parler également de ce documentaire qui sort mercredi aussi au cinéma, La Très Grande Évasion de Yannick Kergoat qui va venir également nous rejoindre. Et puis pour la partie télé, eh bien on aura Brigitte Fossé qui sera notre invitée exceptionnelle pour parler d'Enquête à cœur ouvert qui débarque jeudi sur TF1. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Voici notre premier coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va passer notre coup de cœur ciné de cette semaine sur le film Les Pires, le film co-réalisé par Lise Akoka et Romane Guéret. Lise est avec nous justement aujourd'hui pour en parler. Bonjour Lise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le film va sortir en salle. Il raconte l'histoire de quatre jeunes qui sont repérés sur un casting et tout le monde se pose la question de savoir comment ça se fait que ces quatre-là, puisque c'est les quatre qui sont les moins bien vus en quelque sorte, qui sont un peu, on va dire, considérés comme les cancres de la cité. Alors, comment est venue cette idée déjà de film, Lise ?
Alors, c'est une idée qui nous est venue parce qu'on a fait un premier court-métrage, Chasse Royale, avec Romane, qu'on a co-réalisé, et qui racontait le casting enfant d'un film dans un quartier populaire du nord de la France. Donc voilà, Les Pires, c'est un peu la prolongation de cette réflexion-là, sauf que c'est un film qui parle pas seulement du moment du casting, mais aussi du tournage qui en découle. Et Romane et moi, on était directrice de casting enfant et coach enfant avant de devenir réalisatrice. Donc voilà, c'était une façon aussi de parler de notre expérience. Et puis après, plus globalement, on s'est retrouvés avec Romane sur une passion commune qui est le monde de l'enfance. Et voilà, c'est au cœur de ce qu'on fait, c'est raconter l'enfance.
Alors moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le film pose aussi la question de jusqu'où on peut aller avec des enfants au cinéma, comment on peut les faire tourner, combien de temps, parce que ceux qui ne le savent pas, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en fonction de l'âge, il y a des créneaux très courts où on a le droit de faire tourner les enfants sur un plateau. Il y a même un âge minimum pour les bébés. Ça, il y a peu de monde qui le savent, mais c'est vrai que c'est très restrictif. Il y a des demandes à faire beaucoup en amont. C'est très difficile aujourd'hui de faire tourner les enfants.
Oui, alors après, c'est finalement pas ce qu'il y a de plus difficile, ces contraintes horaires, mais ce qu'il y a de plus difficile, c'est de trouver la juste place pour les entourer, les protéger, savoir reconnaître leurs limites, savoir reconnaître ce qu'ils sont capables de donner, quand est-ce qu'ils sont fatigués, même s'ils le disent pas. Voilà tout ça, et puis aussi la responsabilité qu'on a quand on est un adulte et qu'on vient du monde du cinéma, d'inviter un enfant à venir faire un film alors que lui initialement a rien demandé. C'est le concept, c'est le concept du casting sauvage, de ce qu'on appelle le casting sauvage. C'est de voilà de faire jouer des enfants qui initialement n'avaient pas forcément eu l'idée d'être comédien, mais qu'on croise dans la rue, dans un foyer, dans une école, et à qui on propose de faire un film parce qu'ils ressemblent, ils correspondent aux personnages qu'on a imaginés dans son scénario. Et voilà, donc c'est un film qui pose la question de cette responsabilité-là.
Qui peut mieux que deux anciennes directrices de casting poser cette question-là à travers un film ? Et ça, moi, je trouve ça bien parce que vous êtes plus que légitimes toutes les deux pour justement proposer un film sur ce sujet aussi.
Bah, c'est vrai qu'on en a beaucoup côtoyé des enfants sur des tournages. Donc on parle de plein de choses qu'on a vues. On essaye d'être au plus près de la réalité dans laquelle on était plongé. Et puis, ce qui est important aussi, c'est l'après. C'est-à-dire comment est-ce qu'on reste présente auprès d'eux après un tournage, comment on continue à les accompagner, parce que c'est ça qui peut être assez violent quand on est enfant et qu'on fait un film, c'est cette attention subite à laquelle on n'est pas habitué, être choyé comme ça pendant plusieurs semaines, et puis après d'un coup plus rien, le retour à la vraie vie, voilà, ça peut être assez assez vertigineux, donc il faut que la transition se fasse en douceur.
Et à tout âge, voilà, ça on peut le rajouter aussi. On va planter le décor un peu, Lise. Comment ça commence, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le film pour donner envie là aux auditeurs d'aller se précipiter au cinéma pour aller voir les pires.
Alors on assiste au casting de quatre jeunes enfants ados d'une cité à Boulogne-sur-Mer qui, on le comprend au fur et à mesure, sont des enfants considérés comme les pires de leur quartier.
On pouvait choisir.
Ouais. Et voilà, et on va assister au tournage du film qui en découle et à cette expérience de tournage pour ses enfants et à la rencontre avec certains adultes du tournage, la rencontre avec le jeu, avec la passion du jeu pour certains. Et ça va ouvrir pour certains des portes émotionnelles assez puissantes et pour d'autres peut-être la promesse d'une vocation. Pour d'autres, ça va être une expérience plutôt
enrichissante ou douloureuse. Et ça peut être des deux côtés.
Voilà, je veux pas trop en dire parce qu'il faut aller voir le film, mais voilà, c'est aussi un film qui parle d'émotions, de comment est-ce qu'on arrive à se connecter à ces émotions.
Alors, il y a une chose que je me pose toujours quand on tourne un film qui intègre un tournage à l'intérieur. Est-ce que justement ça permet peut-être de moins cacher certaines choses du tournage, des caméras, le matériel, les techniciens?
Ça a été une vraie question pour nous. Dans quelle mesure est-ce qu'on utilise, on filme nos propres techniciens et on utilise notre propre matériel? Et dans quelle mesure c'est de l'accessoire. Et dans le film, il y a un peu un entre-deux, c'est-à-dire que on voit, nous, à certains moments, notre équipe de tournage, le matériel, on le réutilise aussi et tout ça, et puis en même temps, pour les rôles importants, bah, c'est des comédiens quand même qui jouent des rôles. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu vertigineux là-dedans, dans le fait de, on était en train de faire quelque chose, de raconter quelque chose qu'on était en train de faire, donc des fois, voilà, il fallait plusieurs niveaux de lecture, et pour les enfants les plus jeunes, c'était difficile aussi de, le petit Timéo qui joue Ryan et qui a 10 ans, il a fallu lui raconter l'histoire beaucoup de fois, lire le scénario avec lui beaucoup de fois avant qu'il arrive vraiment à comprendre les enjeux dans lesquels était plongé parce qu'il y avait voilà son personnage dans notre film, son personnage dans le film du réalisateur dans le film, donc c'était
pas, il faut intégrer tout ça.
À devenir fou quoi.
Comment vous êtes répartis un peu les tâches justement entre Roman et vous, Lise? Quand on est deux co-réalisatrices, est-ce qu'on fait deux équipes? Est-ce qu'il y en a une qui a une tâche bien précise et l'autre qui en a une autre? Comment vous faites?
Alors globalement, on est vachement côte à côte. On fait beaucoup de choses ensemble et on se divise pas vraiment. C'est-à-dire que on est toujours à peu près ensemble au même endroit. Après, voilà, il y a des endroits sur lesquels on est un peu complémentaires. Moi, disons que Roman, elle a un peu plus une fibre sur la mise en scène et peut-être moi sur le jeu, sur la direction d'acteur. Mais après, voilà, on fait aucune de ces deux choses l'une sans l'autre non plus. Donc,
une complémentarité pour le coup qui s'exerce tout au long du tournage. Justement, quand on tourne avec pas mal d'enfants comme ça et qu'on a des créneaux un peu serrés et qu'on fait un film, on sait aujourd'hui que le budget du cinéma français c'est compliqué. Est-ce que ça, on est obligé de resserrer un peu au niveau des jours de tournage? Est-ce que du coup c'est plutôt obligé de s'allonger? Comment vous avez géré ça justement?
Oui, bah on avait un temps de tournage qui était clairement pas très long pour le film qu'on voulait faire et ça a été difficile, mais c'est aussi qu'on avait un scénario qui était très long. On a eu beaucoup de mal à resserrer à l'écriture en sachant que ça allait plutôt être ensuite au montage qu'on allait refaire ce travail d'écriture là. Et puis aussi voilà, on était quand même entouré d'enfants qui n'étaient pas toujours faciles à gérer et de beaucoup d'enfants. Donc voilà, on était quand même dans une urgence assez forte sur le plateau, mais c'est ce qui, je pense, aussi peut-être fait la grâce de certains films. Donc tant mieux quelque part.
Mais oui, c'est clair. On va l'évoquer, ce film, justement, un peu du côté des comédiens. Parce qu'on va recevoir le personnage de Lily et Gabriel dans quelques instants, justement, Lise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Les Pires, c'est donc au cinéma. N'hésitez pas à aller le voir, justement. Et on se dit à très bientôt. On va lancer la bande-annonce ensemble et puis on revient juste après avec vos comédiens. Merci beaucoup, Lise.
Merci à vous. Avec plaisir.
Coupez ! Attends, Ryan.
J'étais sur le film.
C'était bien.
Trop bien.
Et puis moi, ils montrent que des cassasses là.
Pourquoi tu dis ça, wesh? T'es payé pour quoi? Pour tourner dans le film, cousine.
Eh, monsieur, vous prenez le sac. Hey, il vomit sur commande, je vous jure.
Fais gaffe quand tu discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout.
Insultez-vous avec vos propres mots.
Un clochard, quoi.
Tu fais quoi, là? Tu fais quoi?
Et Ryan, t'as le droit d'être en colère. Mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas?
On continue à parler des pires dans un instant avec justement Mallory Wanek et Johan Eldenberg qui nous rejoignent. Alors surtout ne bougez pas, on revient juste après ça, tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. J'ai besoin de checker 1000 fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher. Dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide. Tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. Que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous t'avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger. Dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher. Dans un objet.
Tout ça dans un objet.
rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on continue notre spécial Les Pires avec Mallory Wanek qui est avec nous, qui joue le rôle de Lily dans les films. Bonjour Mallory.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Johan Eldenberg, Gabriel, qui est avec nous. Bonjour Johan.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux. Alors on a planté un petit peu le décor justement avec Liz, de ces quatre jeunes qui sont repérés lors d'un casting sauvage et qui vont participer du coup au tournage d'un film. Et tout le monde se demande pourquoi ces quatre là, qui sont considérés un peu comme les quatre pires, on va dire, qu'on pouvait choisir pour tourner un film en fait. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont été choisis, c'est ce que vous verrez dans le film. On va revenir sur votre expérience de tournage, alors surtout à toi Mallory, en tant que jeune comédienne justement. Comment t'as vécu ce tournage de film pour ta part?
Je l'ai super bien vécu. J'ai découvert le monde du cinéma, j'ai découvert une passion, et j'ai découvert que je savais jouer, que je pouvais jouer. Et franchement, c'est que du kiff vraiment. Le tournage, en fait, l'ambiance sur une équipe de tournage, en gros, c'est comme une deuxième famille. En plus, on reste 2 mois ensemble, donc vraiment, le matin, on se parle, on prend notre déjeuner ensemble. Et enfin, c'est ça aussi qui m'a donné grave envie de continuer. C'est le fait que ça devient une deuxième famille au final, et
ça crée des liens.
Ouais, voilà, ça crée des liens. Et puis après les films aussi, on reste en contact. Et puis voilà quoi.
Expérience sur ce film, Johan.
C'était génial. Ça m'a presque jamais arrivé que je lisais un scénario, et je m'ai vraiment battu d'être là dedans. J'ai harcelé l'agent de casting, j'ai téléphoné à tout le monde pour leur dire « Fais confiance, c'est moi ». Et voilà, j'avais raison, et c'était super. Travailler avec eux, c'était surprenant tous les jours. C'était une merveille de les regarder. C'était difficile, mais très bien de faire ce rôle, de chercher, ensemble avec Lise et Roman, les réalisatrices, de chercher le bon ton, la tonalité de mon personnage, l'ambiguïté aussi. Donc c'était un travail super.
On va revenir justement sur vos personnages. J'aimerais que Mallory, qu'on parle de Lily, vue par Mallory. Comment tu la définis, toi?
Alors pour moi, Lily, c'est une fille qui me ressemble énormément. En fait, c'est moi, j'ai envie de dire, elle a le même caractère que moi. Elle a pas la même vie que moi, mais j'ai une vie très similaire à elle. Donc en vrai, je comprends sa manière de penser, je comprends sa manière de dire. Et enfin, pour moi, c'est une fille avec un gros caractère, mais en fait, c'est juste qu'elle a pas eu de chance dans sa vie, et que du coup, elle a une carapace, alors qu'en vrai, elle est vraiment trop gentille dans le fond, et c'est une grande amoureuse. Et voilà, en gros, c'est juste, elle a un gros caractère, elle parle beaucoup, et super active surtout. Et pour moi, c'est pour ça que quand j'ai lu le
scénario,
le rôle, ouais, enfin surtout le rôle, j'ai dit mais c'est moi en fait. Il y a même pas besoin de réfléchir, c'est moi vraiment. Je me suis dit, mais il y a une caméra cachée, on me regarde, j'ai vraiment l'impression que c'était moi. Et ouais, enfin, j'ai pas d'autre mot que dire que c'est moi, vraiment c'est moi.
Johan, pour Gabriel, c'était donc une évidence, on l'a bien compris aussi. Et moi, j'aimerais que justement on parle de Gabriel, vu par Johan.
Ouais, mais Gabriel, c'est pas moi. Mais il me ressemble quand même, parce que tous mes caractères, tous mes personnages me ressemblent, parce que c'est impossible de jouer quelque chose qui te ressemble pas du tout. Mais bon, j'ai immédiatement compris la dramaturgie du personnage, l'importance du personnage, que l'ambiguïté, la tonalité soit bien, soit correcte, équilibrée. Mais Gabriel, c'est un bon mec. Je m'en fous ce que les autres disent, mais en cœur, dans son cœur, c'est un bon mec qui engagé, qui veut vraiment faire son film, qui est naïf, qui passe les limites de temps en temps. Voilà, c'est un personnage paternaliste, un personnage bien et mauvais en même temps, parce que il veut vraiment faire son film, et voilà.
Justement, Gabriel, c'est le metteur en scène. Le film, on le disait avec Lise il y a quelques instants, pose la question effectivement, justement, de faire tourner les enfants, de faire tourner les jeunes, de l'accompagnement qu'il peut y avoir après. Donc, on le voit, il est exigeant ce metteur en scène. Mais cette expérience de tourner justement qu'avec des jeunes, c'est quelque chose qui vous a plu, ça, Johan?
Ça m'a plu beaucoup. En 2010, dans mon propre village, en Flandre, j'ai fait un film avec 25 enfants comme rôle principal. Et donc, ça me parlait déjà, et ça me plaît beaucoup. Mais aussi de voir la naissance des jeunes comédiens, c'est super à regarder. J'ai vu la naissance du comédien de Mallory Banek, parce que et c'était entre la première répétition et la deuxième. La première répétition, elle était nerveuse, elle ne savait pas trop bien préparer. La deuxième répétition, elle était préparée et elle commençait à s'amuser, de jouer, de faire des trucs, d'être libre. Et c'est super à voir ça.
C'est là qu'elle a tout donné, du coup. Mallory, quelle est ta scène qui t'a marqué le plus? Celle qui t'a fait le plus peut-être rire ou qui t'a le plus impressionné?
Il y en a plein vraiment. L'une des scènes qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la scène où je pleurais dans la rue. Je suis en pleine rue et puis je me mets à m'effondrer, mais vraiment pleurer avec de la nasse qui coule, vraiment. Et je pense que celle-là, j'ai dû me mettre dans la tristesse et donc j'ai dû me remémorer plein de choses et tout. Et je pense que elle est très belle aussi dans le film, donc c'est pour ça que aussi c'est une de mes scènes préférées. Mais à tourner, vraiment, c'était dans la rue, tout le monde te regarde et en fait c'était la scène qui m'a le plus marqué. Parce que bah, je pleurais autour de centaines et de centaines de monde qui me regardaient comme si de rien n'était. J'arrivais à faire abstraction des autres, donc c'est aussi un truc que bah, j'ai vu que j'ai évolué justement grâce à ça, parce qu'avant j'aurais jamais été capable de tourner vraiment en pleurs, hein, vraiment en pleurs dans la rue.
Un travail sur toi énorme.
Ouais, c'est ça. Bah, j'ai surtout beaucoup appris quoi.
Alors, t'as envie maintenant de continuer, d'en faire ton métier, de continuer à jouer justement?
Bah bien sûr, je pense que comme toute jeune à ma place, bah comme toute adolescente à ma place, aurait aimé continuer. Mais d'ailleurs, j'ai deux projets en cours. J'ai un projet avec Ali Marère en tant que réalisateur et Ahmed Silla en tant que rôle principal. Et
après, ouais, carrément.
Ouais. Et après, j'ai un autre long métrage qui va s'appeler Pas de vague avec le réalisateur Teddy Lucie Modeste. Et donc, j'espère encore continuer. Donc, je passe encore des castings. Et, ouais, vraiment, j'espère vraiment de tout mon cœur continuer parce que déjà, je reçois plein d'amour et ça c'est vraiment 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 incroyable, c'est ce que je préfère en fait. Quand les gens ils viennent te voir pour te dire que vraiment l'émotion elle est passée et que en gros t'as réussi à faire ton taf, c'est vraiment trop bien. Et aussi le fait de jouer des émotions, de devoir se mettre dans des états alors que tout, enfin t'es en fait, comment dire, quand on dit action c'est tout, après t'es il y a plus de Mallory, t'es le rôle Lily, et donc l'émotion que tu dois faire, c'est en fait t'étais, ouais, on a l'impression on change de cerveau, on n'est plus la même personne, et ça qui est incroyable.
Mais écoute, en tout cas ça se ressent dans le film. Même question, Johan, est-ce qu'il y a une scène particulière qui vous a impressionné, qui vous a donné du fil à retordre?
Bah pour moi c'est toutes mes scènes en dialogue avec ou Mallory ou Timio qui joue Ryan. Où je me laissais surprendre par leur talent et leur envie et leur...
À la fois, il faut faire attention à ne pas devenir spectateur, du coup. En même temps, de ce qu'ils font, c'est dur de trouver la marge.
Oui, mais c'est vrai. Mais en vrai, comme pour être vraiment un bon comédien, tu dois être spectateur dans ta propre vie, tu vois. Tu dois écouter vraiment, regarder vraiment. C'est ça qui est parfois le plus difficile. Et ils m'ont obligé de regarder. Ils m'ont surpris tout le temps. C'était incroyable, vraiment.
Et ben on va découvrir ça au cinéma. Ça s'appelle Les Pires, un film de Lise Akoka et Roman Guéret. À ne pas manquer, justement. Et justement, ben avec ce beau casting, avec Mallory Wanek et Johan Eldenberg. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Ben merci à vous.
Merci à vous.
Et à très bientôt, on termine avec un nouvel extrait. Je préfère une enfance dans
la street que dans un... Bah tu sais, avec les associations, on fait un boulot au quotidien pour que l'image du quartier elle change. Mais en fait, ce que vous faites là, bah ça stigmatise.
Pourquoi vous n'avez pas pris des vrais acteurs?
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants.
Et c'est un film pour la télé ou le cinéma?
Pour le cinéma.
Ah, on va travailler la scène de cul cet après-midi avec Lily, ma petite hippie.
C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça à l'école, hein, je te le dis.
Tu dois faire confiance à ce que tu ressens. Être en colère quand il faut être en colère. Et pleurer quand on a besoin de pleurer.
Moi, je pleure pas, moi.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Enquête à cœur ouvert qui débarque jeudi sur TF1. Notre invitée aujourd'hui, Brigitte Fossé, pour évoquer cette mini-fiction qui débarque en 6 épisodes avec Claire Keim notamment. Il y a plein de beaux mondes et puis Pierre-François Martin Laval. Brigitte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, tu joues le rôle de Françoise, justement, dans cette fiction. C'est un clin d'œil à la Boum, dis-moi.
Je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas pensé. Pour moi, tout rôle est nouveau, même. Je fais pas le rapport entre les prénoms. Vous voyez? Je l'aborde toujours avec une nouvelle attitude.
Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire un petit peu de cette quête d'identité? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait accepter ce rôle, en tout cas, de la mère de Claire Keim?
Mais écoute, c'est que c'est une femme ambiguë, c'est une bourgeoise un peu coincée. Il y a des bourgeois qui sont décoincés, puis il y a des bourgeois qui sont coincés. Il y a des gens du peuple qui sont coincés, puis il y a des gens du peuple qui sont décoincés. Moi, personnellement, dans ma famille, il y a absolument tous les milieux. C'est-à-dire que j'ai la patate, la brouette du Nord, j'ai le côté populaire des marchands de charbon, j'ai la noblesse, j'ai des petits bourgeois, des grands bourgeois, des moyens bourgeois. J'ai aussi surtout... chez mes grands-tantes, grands-oncles, quatre religieuses, les filles de la croix, et un prêtre, et un père qui était un saltimbanque dans son âme. Pour moi, saltimbanque égale poète. Mon père écrivait des poèmes, il était enseignant et il passait la lumière tout le temps. Et ma mère était également poète parce que le papa de ma maman s'appelait Maurice Feuillade et il faisait des revues comiques à Boulogne-sur-Mer et il écrivait des poèmes extraordinaires. Donc, si vous voulez, dans cette histoire, ce qui m'a plu, c'est que entre une enfant adoptée noire dans la bourgeoisie, dont la mère est friande, est prise, Claire Kame, c'est comme si elle l'avait faite. Parce que aimer, qu'est-ce que c'est? C'est pas seulement accoucher, c'est surtout s'occuper de quelqu'un.
C'est ça le lien du cœur.
Non mais c'est pas le cœur, c'est la pratique. Il faut mettre les doigts dans le charbon. Quand on est parent, on y va. J'avais un ami qui disait, quand on a un bébé, on prend et le bébé et le caca. C'est-à-dire qu'il faut le nettoyer, on lui donne du lait, et puis on poétise autour du bébé. Mais c'est ça la paternité, c'est ça la famille, c'est du boulot, c'est du travail. Et moi, ce que j'ai aimé, si vous voulez, dans le rôle qu'on m'a confié, c'est que au départ, elle a l'esprit encrassé, elle a des boules quies dans les oreilles et dans les yeux, elle a des lunettes à triple foyer, mais elle voit pas quand même. Et à la fin, elle s'humanise un petit peu, c'est-à-dire qu'elle se rend compte que, bon, avoir une petite fille qui n'est pas de la même couleur que sa propre fille, c'est pas péché. Et donc, elle évolue un petit peu. Donc, on peut espérer qu'après, elle évoluera beaucoup. Parce qu'à partir du moment où vous bougez un tout petit peu le système de l'évolution, ça y est, c'est parti. Mais le problème, c'est quand c'est givré, quand c'est gelé. Alors là, il faut prendre un grand truc et casser la glace, vous voyez. Alors, elle est un peu un morceau de glace au début, voilà.
Et plein de beaux noms, Pierre, François-Martin Laval, Claire Kame, Jessériel Massengo. On va découvrir donc cette fiction jeudi avec toi Brigitte. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va se quitter avec la bande-annonce. Et merci d'avoir fait ce petit détour par nos studios.
Merci, je pars jouer à Paris et on est à Royan. Et je vous salue tous, je suis contente d'être venue.
Je veux que tu disperses mes cendres ici. Je suis sérieuse Vincent.
Je t'interdis de mourir. Tu m'entends? C'est hors de question. Je lui ai dit au Big Boss. Tu restes avec nous.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. Baffled king composing, alleluia.
Zoé, ma chérie, si tu lis cette lettre, sais que je ne suis plus là. Que mon cœur n'a pas réussi à tenir le coup, à force d'attendre cette transplantation cardiaque. Je veux que tu ne doutes jamais, pas un seul instant, de mon amour infini. De ma fierté profonde que tu sois notre fille.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré à Maestro qui sort mercredi au cinéma et on a aujourd'hui la chance de recevoir le réalisateur qui est avec nous, Bruno Chiche. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et comme on va parler beaucoup musique classique dans ce film qui a un orchestre magnifique sur scène, il a fallu quelqu'un à la direction musicale quand même. Et c'est Anne Gravoin qui est avec nous aujourd'hui pour nous parler justement de la partie musicale du film qui est très importante. On va l'évoquer dans un instant. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bruno, comment est venue l'histoire de départ? C'est une histoire intra-famille en quelque sorte, histoire père-fils à couteau tiré. Comment est venue l'idée?
L'idée est venue que j'avais envie effectivement de raconter l'histoire d'un père et de son fils, vu que j'ai un père moi qui est un peu vieillissant, avec qui j'ai pas, que j'aime beaucoup, hein, mais avec qui j'ai pas toujours beaucoup parlé, et un fils qui a l'âge d'ailleurs de Nils Otnin-Gérard qu'on voit dans le film, le fils d'Yvan Attal. J'avais envie de raconter ça, j'avais envie de faire un film qui partait de l'intime en fait. Pas pour faire une autobiographie, hein, on s'en fiche, mais j'avais envie de me mettre un peu aussi dans le film, quoi. De parler, alors, de cette relation père-fils, mais aussi des relations avec son ex-femme, avec la femme avec qui il vit, voilà, avec son propre enfant, voilà. J'avais envie d'être dedans.
Alors, on y démarre avec l'histoire de Denis qui vient d'avoir une victoire de la musique classique. Son père, lui, est plutôt en fin de carrière et suit un peu les péripéties de son fils à travers les écrans parce qu'ils sont quand même légèrement fâchés, on va le dire.
Ils ont des rapports difficiles, mais ils sont pas fâchés. C'est-à-dire que c'est un père qui est un très, très grand chef d'orchestre. Mais effectivement, de voir son fils s'approcher de lui à grands pas, lui, c'est aussi le miroir de la fin, quoi. Bon, voilà, c'est pas facile.
Anne, moi, la première question que je me suis posée quand on fait un concert de musique classique, évidemment, les musiciens jouent, ils sont habitués, ils ont une partition, voilà. Mais quand on est sur un tournage, qu'on sait qu'il faut des fois reprendre, qu'il faut reprendre une scène plusieurs fois, qu'il faut les arrêter à un point précis, comment on dirige un orchestre sur un tournage par rapport à un concert normal? Ça doit pas être la même chose quand même.
Alors c'est pas du tout la même chose, mais il y a des trucs. Voilà, c'est le réalisateur, la façon dont il va lui diriger toute ces journées avec ses musiciens. Si on parle de technique, c'est évident que les musiciens que l'on voit, que l'on voit dans le film, jouent vraiment évidemment leur partition, mais c'est tout ça est time codé, c'est réenregistré après. On suit une bande, on est au clic, etc. pour être parfaitement synchrone par rapport, bien sûr, à la mise en scène de Bruno. Et puis, en plus, si vous voulez, un enregistrement en direct live comme ça sur un plateau de tournage, c'est très difficile avec le bruit de toute l'équipe technique, bien évidemment. Nous filmons sur la musique que l'on entend sur le plateau, voilà. Et ensuite, après, on va pas tout vous dévoiler.
Non, il y a des arrangements après cinématographiques, c'est la magie du cinéma qu'il faut garder pour nos spectateurs.
Absolument, mais en tout cas, ce qu'il y a de formidable dans ce film, et ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que tous les musiciens que l'on voit à l'écran, ce sont eux qui ont enregistré et qui jouent la musique. Voilà.
Ils sont tous de vrais musiciens, et ça c'est un challenge, évidemment, sur un tournage de diriger autant de monde d'un coup. Ça a été évident, Yvan Attal et Pierre Arditi, pour jouer ce duo, ça a été une évidence tout de suite.
Oui, c'est-à-dire que Yvan, on se connaissait pas tant que ça. On se connaissait depuis assez longtemps. On se connaissait, on se parlait. Quand je lui ai proposé le rôle et qu'il a accepté, on a travaillé ensemble. Parce qu'encore une fois, c'est un vrai film d'acteur, ce film. Il fallait parler des personnages, mais ça a été d'ailleurs un travail comme ça avec tous les acteurs du film. Et puis quand j'ai cherché son père, pour la petite histoire, Pierre Arditi, c'est presque le premier acteur que j'ai connu dans ma vie, en fait. J'étais stagiaire à la mise en scène sur un film de Robert Enrico qui s'appelait De Guerlas, l'adaptation d'un bouquin de Sagan. Enfin bon, bref, moi j'avais 19 ans, lui était déjà très vieux. Non, je plaisante. Mais là, mon boulot, c'était d'aller le chercher tous les matins chez lui pour l'emmener sur le tournage, quoi. Et je me suis un peu vengé en l'engageant dans le film. Non, mais voilà, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. Et c'est vrai qu'un film comme ça, je vous dis encore une fois, qui part quand même de l'intime, j'avais besoin de travailler avec des gens que j'aimais, quoi, qui avaient la même sensibilité. Et on formait tous une petite troupe. Mais d'ailleurs, Anne, pareil, elle fait partie de cette troupe. Je pense que c'est une vraie... Alors, je veux pas dire ça parce que tous les metteurs en scène disent ça, c'est comme une famille, mais là, pour le coup, c'est vrai parce que c'est un film trop proche de moi. Donc, voilà. Et ce qui est beau, alors, pour parler de Pierre et Yvan, c'est que d'abord, ils se connaissaient. Yvan l'avait dirigé dans son film, le film qu'il avait réalisé, Les choses humaines. Et c'est drôle parce que les gens, quand ils voient le film, ils disent que plus le film avance, en fait, plus on a l'impression qu'Yvan ressemble à Pierre Arditi. Donc, c'est vraiment un père, ils sont tellement crédibles. Un père, un fils, ils ont presque un petit peu ce rapport-là dans la vie.
Ça matche incroyablement bien, c'est vrai, entre les deux. Alors, les relations entre le père et le fils sont difficiles, on le disait, mais effectivement, la Scala de Milan va venir mettre un peu plus encore le quiproquo dans cette famille. Tout va partir un peu de ce feu aux poudres qui va être mis par la Scala de Milan et de ce quiproquo qui va s'enfoncer un peu entre les deux.
Oui, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que faut que j'arrête de dire ce qui est drôle parce que c'est pas drôle du tout. Non, pour la petite histoire, quand j'avais cette histoire en tête, au début, ils étaient pas chefs d'orchestre. Et j'ai une amie qui est chanteuse lyrique qui m'a dit, mais c'est drôle l'histoire que tu racontes. Enfin, cette histoire de compétition, ce quiproquo, comme vous dites, puisque c'est.
Ça se transposerait bien, en tout cas, dans ce domaine-là.
C'est-à-dire que elle, c'est ce qui lui était arrivé avec son mari et son beau-père, qui c'était deux chefs d'orchestre wagnériens. Le rêve du père était, du beau-père était de jouer à Bayreuth, et en fait c'est son mari. Et ça a foutu un bordel dément dans toute la famille, quoi. Et donc quand je suis sorti de ce déjeuner avec elle, j'ai réécrit complètement le scénario et pour le transposer dans le milieu de la musique. Voilà, d'où cette idée de Scala, comme le père pense que reçoit un coup de fil comme quoi il va diriger la Scala et en fait c'est le fils.
Anne, alors il y a des fois des films qui passent au cinéma, on se dit tiens, ça pourrait être très bien aussi à la télé, on voit pas. Mais là, s'il y a bien un film, on se dit faut aller le voir absolument au cinéma sur un grand écran avec ces magnifiques scènes de musique classique. C'est bien maestro quand même.
Alors, je suis tout à fait en accord avec vous. Il faut aller au cinéma parce que c'est un film qui se partage. Ça se partage avec des gens qu'on connaît pas. Et il y a beaucoup d'émotions. Et il y a que dans la salle de cinéma que l'on peut arriver justement à être, à avoir cette emprise comme ça qui vous, enfin, cette, oui, je sais pas si on peut ça, une emprise, mais enfin, en tout cas, une émotion qui se jette sur vous. Et c'est aussi grâce à tous les autres humains qui vous entourent dans une salle donc noire. On ne connaît pas les autres. Mais c'est ça qui fait justement la beauté. Pour ce film-là, en tout cas, oui, il faut aller au cinéma.
Voilà, on a presque tout dit. Maestro, en tout cas, c'est mercredi dans les salles. On ne le rate pas. On va se quitter avec la bande-annonce. Merci Anne et merci Bruno d'être venu nous voir, en tout cas.
Merci à vous et puis vive le cinéma, vive le 7 décembre où on sort. Et puis merci à ce festival de Royan qui fait qu'on se rencontre et qui est très chouette.
Merci beaucoup Bruno, merci Anne.
Merci, bonne soirée.
Et le prix du meilleur enregistrement est attribué à Denis Dumas.
Merci, je voudrais remercier ma maman qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père.
Et félicitations. Hein.
Pour
votre fils.
Il a été formidable, votre fils.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Alors on va pouvoir travailler. Arrêtez!
Oui.
Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala.
Mais non.
Non mais c'est génial ça, bravo.
La Scala.
Je suis content pour toi.
On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée, elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous.
C'est une blague. C'est une catastrophe.
À la Scala.
À la Scala.
Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui.
On manque de temps. Denis, parlez à votre père.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à la sortie du film Nos Frangins qui sort mercredi dans les salles. Un film de Rachid Bouchareb qui est justement notre invité. Bonjour Rachid.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Il sera rejoint d'ailleurs d'ici quelques minutes par Samir Ghesmi et Raphaël Personnas qui seront également avec nous pour parler de ce film qui retrace la nuit des événements sur l'affaire Malik Houssekine. On se rend compte que tout n'est pas si simple que ça. On apprend plein de choses dans ce film qui mêle archives et en même temps images d'aujourd'hui interprétées avec brio par toute cette équipe de comédiens talentueux. À quel moment, Rachid, vous avez eu envie de faire un film sur cette histoire qui a secoué la France en 1986?
Je dirais pas 86 quand ça s'est passé, mais peu de temps après. C'était pas le moment pour moi à ce moment-là de partir dans ce projet. J'aimais bien l'idée de cette distance, d'y revenir beaucoup plus longtemps après.
Prendre un peu de recul effectivement sur l'affaire pour qu'elle soit peut-être aussi bien documentée, qu'elle soit le plus fidèle possible à la réalité.
Absolument, et puis avec les années, on va avoir un effet de libération un peu avec les archives. On va avoir des choses qui vont venir, des témoignages un peu après. On va avoir pas mal de choses qui vont venir se compiler au niveau d'informations et de recul après toutes ces années, c'est sûr.
Combien de temps de préparation sur ce film? Depuis combien de temps vous y travaillez, justement?
Oh, je dirais que ça va faire... ça a demandé bien 3 années, 3 ans.
Et après, comment on choisit ses comédiens, justement?
Ça n'a pas été compliqué, c'est pendant l'écriture du film, je savais quels acteurs j'allais avoir sur le projet. Je le savais pendant que j'écrivais. Donc j'ai pas eu de difficulté au casting, c'est déjà une étape qui est en général très difficile, très angoissante. Donc je me suis enlevé toutes ces angoisses, pendant le scénario je les ai vécues. Mais tout en rencontrant les acteurs, j'étais très rassuré à chaque fois, donc je me suis évité une étape après qui est vachement dure.
Au fur et à mesure que vous avez avancé dans le projet, Rachid, Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez découvert des choses, des fois peut-être avec stupéfaction d'ailleurs, sur cette affaire qui n'avait pas été encore forcément révélée ou très méconnue encore du grand public?
Oui, c'est le discours politique de l'époque qui, avec toutes ces années, tout ce recul, et en allant chercher tout ce qui existait à l'époque, sur ces 3-4 jours de déclaration, waouh, là j'ai été effectivement choqué. Sur le moment, il y a 35 ans, j'étais dans le mouvement, quoi, avec des millions de Français qui ont donc dit leur mécontentement et qui étaient scandalisés, quoi. Mais je dirais que le discours politique, je me rappelle, il m'atteignait avec toute cette équipe gouvernementale de l'époque, mais moins violemment qu'il y a quelques années quand j'ai commencé à rentrer et à revoir tout. Et là, avec tout ce recul, avec le temps aussi qui est passé, avec l'âge que j'ai pris, on revit différemment, mais vraiment différemment. On est même surpris par certaines choses, on se dit, mais comment ça a pu être dit et comment ça a pu être accepté? Comme quoi, on peut recevoir plein de choses et puis, voilà, ça dépend de chacun, mais pour moi, ça m'a bouleversé quand même, mais vraiment. C'est pour ça que je me suis dit, ah non, ça doit être dans le film.
À titre personnel, l'affaire Malik Osekin, on en a tous entendu parler. C'est vraiment une affaire qui a secoué la France. Et dans le film, moi par exemple, j'ai appris qu'effectivement, il y avait un deuxième jeune homme qui avait été tué la même nuit par les policiers, qui s'appelle Abdel. Son père est joué par Samir. On va d'ailleurs lui poser aussi la question d'ici quelques minutes. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. Et c'est horrible de penser qu'effectivement, les gens, enfin, à l'époque, ils ont mis autant de temps à lui apprendre la mort de son fils, à ce père, quoi. C'est terrible.
Non, absolument. Et donc, pour moi, le projet, c'était de parler de ces deux jeunes garçons. C'était pour moi très important de lier. Ils sont liés dans la même nuit. Ils ont les mêmes origines. Ce sont des enfants de l'immigration. Voilà. Ils étaient l'emblème de ma génération. Ils étaient ce qu'on pouvait craindre quand on sortait la nuit, quand on a des parents qui étaient inquiets quand vous sortiez tard le soir, qu'il vous arrive quelque chose, parce qu'ils avaient cette peur de la police, hein. Donc j'ai connu ça, de vivre dans une société et d'avoir peur de la police, quoi. Mais c'est pas possible de vivre dans une société et d'avoir peur de la police. Ça, je l'ai connu. Donc ça, personne ne peut venir me contredire là-dessus.
Quand on fait un film sur un sujet comme ça, est-ce qu'il y a des pressions politiques? Est-ce qu'il y a des pressions peut-être des personnes qui sont encore touchées de près? Je sais que par exemple la série de Disney+, ça avait été très difficile aussi à monter. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un film qui a été clairement difficile à monter?
Je dirais non, parce que je suis tombé, tous les partenaires du film ont vécu cet événement. Donc, et certains ont été scandalisés et ils ont milité et certains jusqu'à aujourd'hui ont gardé dans le cœur une blessure. Donc quand on tombe sur des partenaires qui tout de suite vont commencer à vous raconter leur vécu par rapport à l'histoire, c'était évident pour eux d'être dans le projet.
C'est chouette. Au moins, ça permet voilà, d'être le plus fidèle possible à la véritable histoire.
Oui, oui, personne ne m'a dit « Ah, telle scène !» Non, pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Le film s'est fait en toute liberté, avec un soutien des populations, de tous les gens que je rencontrais, que ce soit les figurants, que ce soit les gens qui m'ont permis de tourner dans des hôpitaux, dans les lieux, dans les rues. Tout le monde avait en mémoire Malik Osekin, pas Abdel, Ben Yahya, bien sûr. Mais ils étaient là et dire ouais, il faut formidable, on vous aide et tout. Donc ça s'est fait dans un soutien collectif et qui était vraiment touchant, touchant.
Un film à découvrir mercredi au cinéma, ça s'appelle Nos Frangins. Rachid, merci d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce. Juste après, c'est Samir Ghesmi et Raphaël Personnas qui vont nous rejoindre également. On va continuer à en parler, c'est notre spécial aujourd'hui qui vous attend sur cette affaire voilà, qui a secoué la France. Merci Rachid, justement, de nous avoir permis d'apprendre pas mal de choses sur le sujet. Et puis on se dit à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Et tout de suite, la bande-annonce.
Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Osekin.
Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation.
Inspecteur Mattei.
Il est là-bas.
Il sait pas que son fils est mort.
Le gamin s'appelait Abdel.
On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. va pas encore plus charger la police.
Votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur et Madame Oussekine ?
Oui.
Votre frère est mort cette nuit.
Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre ?
Allez, ne bougez pas, Raphaël Personnaz et Samir Guesmi nous rejoignent dans un instant. Alors, à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Plus besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout savoir de l'amour, mais ce n'est pas vrai. Si je les aimais fort, toi c'est beaucoup plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. On se bat contre un monde qui nous dit d'arrêter, mais dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur que tes mains vont me lâcher, je te tiendrai plus fort, je serai le plus fort. Regarde comme on est beau sur le même bateau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur, donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Donne à ton petit cœur des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Allez, on va continuer à parler de Nos Frangins. Le film, vous le savez, sort mercredi dans les salles. Et on est très heureux eh bien, de recevoir deux des comédiens qui sont avec nous, Raphaël Personnaz. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et puis presque un habitué de l'émission. On était là pour son film, Ibrahim. Samir Guesmi qui est avec nous. Bonjour Samir.
Bonjour.
Merci d'être là tous les deux pour parler de ce film. On a planté un peu le décor avec Rachid Bouchareb, même si effectivement c'est l'affaire Ouskine aujourd'hui dans l'inconscient collectif. Beaucoup connaissent cette histoire, mais on apprend beaucoup de choses à travers ce film. Est-ce que vous, à travers ce scénario, quand vous l'avez lu, quand vous avez vu un peu ce que vous tourniez, vous avez aussi appris des choses sur cette affaire tous les deux, Samir, Raphaël?
Oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai appris la, par exemple, j'ai appris la mort de d'Abdel Ben Yahya, mon fils que j'interprète, parce que j'interprète le rôle du père d'Abdel Ben Yahya. Et Abdel est un jeune, d'une vingtaine d'années, qui, à la même nuit, pendant l'assassinat de Malik Houssekine par les voltigeurs, est lui-même assassiné, Abdel, par un policier complètement ivre, on peut le dire, dans un bar à Gennevilliers. Donc cette histoire-là d'Abdel, je la connaissais pas.
C'est vrai que c'est assez méconnu. Toi, Raphaël, t'as appris des choses aussi en lisant le scénario, en tournant ?
Je connaissais l'affaire de Malik Houssekine, mais je la connaissais pas en détail. Je savais pas tous les éléments. Par exemple, le fait qu'il avait une Bible sur lui qui avait amené à faire penser aux policiers qu'il était peut-être un terroriste libanais. Enfin, tous ces détails-là, je les connaissais pas. Je connaissais pas, comme Samir, l'affaire Ben Yahia. Et puis surtout, je crois que c'est aussi toute l'ambiance d'une époque que Rachid décrit dans le film, qu'on voit, alors qui n'était pas forcément, enfin sur le scénario peut-être que j'en avais pas pris conscience à ce point-là, mais là il y a l'apport évidemment d'images d'archives, d'images qu'on croit être d'archives mais qui ne le sont pas, et on voit aussi plein de mouvements en fait de la jeunesse de l'époque, et donc c'est un film aussi avec ce souffle-là qui le traverse, donc c'est évidemment l'histoire de Malik Houssekine, d'Abdel Ben Yahia, et puis c'est, j'ai l'impression, l'histoire d'une génération.
Génération qui se révoltait effectivement à l'époque. Tu joues le rôle de Daniel, c'est l'enquêteur qui a eu la lourde tâche d'apprendre aux familles effectivement ce qui s'était un peu passé malgré les pressions, la hiérarchie. C'est ce qu'on apprend aussi, c'est que mine de rien cet enquêteur avait des pressions pour pas dire tout de suite ce qui se passait réellement, comment on peut cacher aux familles un tel drame et garder ça. Enfin, je veux dire, pour un enquêteur, c'est quasi impossible cette histoire, c'est sûr.
C'est quelqu'un qui, sans doute, dans sa première intention, aimerait dire la vérité aux familles de victimes, mais très vite, on lui fait comprendre que sa hiérarchie le lâcherait. Donc, il va mentir. Il va mentir au père de la victime que joue Samir. Il va mentir et retarder l'annonce de la mort de son fils. Donc c'est quelqu'un qui va s'écraser, quoi, qui devient lâche, tout simplement. Donc c'est pas un personnage glorieux, mais...
On sent que ça le ronge, hein, malgré tout. Hein. Enfin, on le sent dans ton interprétation, en tout cas.
Oui, oui, bien sûr. Bah, parce que sinon, on en fait un salaud. Alors que je pense que c'est plus un salaud ordinaire. Donc on peut tous... Moi, j'ai toujours le sentiment qu'on pourrait tous être ce mec-là à un moment. C'est ce que j'essaie avec des personnages comme ça, c'est de me dire, déjà, je suis qui pour le juger? Je suis là pour essayer de comprendre ce qui l'a amené à faire ça, ce qui l'amène, même si c'est un personnage fictionnel, me dire qu'est-ce qui fait que ce type-là va être amené à mentir à un autre être humain qui est dans la pire douleur qui soit. Et ben, ça va être des petites choses, sans doute. Il veut se protéger son emploi, parce que s'il obéit pas, bah, il sait très bien qu'il va tout perdre. Donc voilà, essayer de comprendre ça, ça veut pas dire l'excuser, mais essayer de le comprendre.
Samir, tu es méconnaissable. C'est assez dingue cette transformation physique qui a été faite. Combien d'heures de maquillage le matin pour se grimer justement en ce père d'Abdel? Il a dû avoir une bonne préparation quand même.
Oui, je dirais quoi? J'avais une perruque, des poils sur le visage, un grain de beauté, je dirais quoi, une bonne heure, une grosse heure, entre une heure et quart et une heure et demie, ouais.
Dans la peau du père d'Abdel, comment on se prépare un rôle comme ça? On se documente justement, est-ce que c'est des choses vraies? C'est toujours plus difficile peut-être juste d'intégrer ça quand on est comédien, essayer de relater fidèlement ce qui s'est passé?
Oui, relater fidèlement, et puis heureusement pour soi, on n'a pas connu ce genre de drame, donc et à la fois un désir fort de témoigner quand on est acteur, de rendre hommage, présenter nos condoléances à cet homme, à cette famille, et à la fois incarner un homme qui a perdu un fils dans des circonstances abominables. Donc là, l'imaginaire joue beaucoup, parce que c'est le travail d'acteur. Moi, je sais pas ce que c'est, Dieu m'en garde, de perdre un enfant. L'humilité aussi de se dire que notre travail d'acteur a des limites, c'est-à-dire que à un moment, faire confiance aux partenaires, aux réalisateurs, à l'histoire, aux costumes, au dialogue, pour juste qu'on y croit, et au public également. Et on prend malgré tout du plaisir. Comme quoi, c'est un métier assez fou quand même, d'interpréter cet homme totalement meurtri.
Il y a des scènes particulièrement émouvantes, difficiles pour vous, que vous avez eu à jouer, qui restent en mémoire. Je vais pas dire forcément qu'ils vous ont hanté, parce que le mot serait peut-être grand, mais voilà, qui vous ont mâché un petit peu, quoi, en quelque sorte.
Mais bien sûr, donc ça illustre un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'était la scène où j'apprends la mort de mon fils, où Rachid me dit que, en plus, il est dans une position assez inconfortable, moi, l'acteur, parce qu'il est en train de réparer sa bagnole, et Rachid voulait ma réaction à travers la portière entrouverte. Et donc, comment tu fais, comment t'apprends la mort de ton enfant? Comment, c'est totalement absurde. C'est à la fois, il y a un milliard de manières de faire, comme il y en a pas une de juste, comme je sais pas, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'appréhendais beaucoup, cette scène-là. Tu viens d'apprendre que ton fils a été assassiné par la police. Allez, vas-y, en piste.
Oui. Débrouille-toi avec ça, quoi.
Ouais, et puis ça n'a jamais été ça. Rachid ne te laisse jamais. Enfin, il est là à t'aider. Non, c'est la magie, quoi. Et puis ça passe ou ça casse, quoi. Puis ça.
Ça passe très bien, en tout cas. C'est très bien retranscrit. Raphaël, est-ce qu'il y a eu une scène, justement, donc, un peu particulière, difficile?
Moi, je me souviens d'une scène qui se passe à la morgue, où les personnages joués par Reda Kateb et Lina Koudry découvrent le corps de leur frère. Et...
il pète un plomb littéralement, Reda Kateb, c'est magistral aussi.
Ouais. Et là, vous la faites une fois, deux fois, et vous entendez ces cris qui sont même plus humains, quoi. C'est un râle d'une bête comme ça qui voit la pire des choses devant lui. Donc oui, ça c'était très émouvant, mais après... il faut faire attention dans ce genre de film, à mon avis, à pas forcer une quelconque émotion. Et avec Rachid, c'est ça qui est bien, c'est qu'il vous... il y a une atmosphère très douce sur ces plateaux, très humaine en fait, assez chaleureuse. Et je pense que c'est dans ces moments-là qu'en effet, des souffrances peuvent arriver de manière naturelle, que ce soit pas forcé. C'est facile de forcer quelqu'un à avoir mal, à souffrir, c'est facile. Mais d'arriver à faire en sorte que ça vienne presque, j'allais dire, d'une manière assez douce... Eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus éclatant d'humanité à l'écran, et là c'est le cas. Enfin, en voyant le film avec, c'est pas moi qui ai la partie, on va dire, émotionnelle du film, donc je peux le dire très froidement. Quand je vois tous les acteurs dans le film, moi je suis pris par cette émotion-là qui me traverse. Il y a énormément de personnages. Je pense au personnage de la petite amie de elle est extraordinaire, cette actrice. Elle est extraordinaire. Je l'ai jamais croisée sur le plateau. Je ne la connais pas, donc je n'ai pas d'un. Voilà. Je le dis parce que je l'ai vue sur l'écran et que cette émotion, elle traverse parce que il y a le regard d'un homme qui est Rachid, avec qui on est heureux de travailler, avec qui on est fier de travailler. Voilà. Qui a cette expérience-là, en tout cas. Voilà.
J'étais très heureux, en tout cas, de pouvoir consacrer ce coup de cœur ciné à nos frangins, avec Rachid et vous deux. Voilà, c'est un film qui, j'espère en tout cas, va pouvoir vous éclairer, vous auditeurs, sur cette affaire dont vous avez peut-être entendu parler dans votre jeunesse, ou voilà, l'affaire Oussekine. Mais en tout cas, voilà, c'est une affaire qui a bouleversé la France de manière profonde à l'époque, qui a changé certainement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, voilà, ce film, j'espère, va vous donner des clés pour mieux comprendre tout ça. Merci infiniment à tous les deux. Merci Raphaël, merci Samir d'avoir terminé cette spéciale avec nous. Et puis on vous dit à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Oui, merci Alain, à très bientôt.
Et puis on s'est dit à très vite, on termine tout de suite avec un deuxième extrait. C'est parti, nos frangins, je vous rappelle, c'est mercredi dans les salles.
La police va rien nous dire.
On va savoir bientôt.
Mais on va rien savoir.
Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police.
Je vais parler au commissaire.
Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire.
J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation.
J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse.
Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça.
La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Oussekine serait mort.
Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré, eh bien, ce coup-ci à un film documentaire qui va beaucoup vous intéresser, de Yannick Kergoat, qui est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Ça s'appelle La Très, entre parenthèses, Grande Évasion. Un film qui part tout simplement de la pandémie et qui va remonter en arrière pour essayer de nous faire comprendre ce que c'est que l'évasion fiscale. Un film très drôle à la fois aussi. Ça a été certainement voulu dans l'écriture. J'avais l'impression d'être à mi-chemin entre un film de Louis de Funès et Cache Investigation d'Élise Lucet. Ça, c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à nous emmener dans des univers aussi différents et nous intéresser à ce thème qu'est l'évasion fiscale aujourd'hui.
Oui, bah, c'est très belle référence. Moi, je trouve effectivement, vous avez bien situé le film. Alors, effectivement, dans le rôle de Louis de Funès, on pourrait dire, il y a un certain nombre de personnages, dont Nicolas Sarkozy, par exemple, au début du film. Et puis, Élise Lucet, bah, au sens d'une enquête journalistique sur une question, voilà, importante qui intéresse tous les gens. L'évasion fiscale, on va dire, ses mécanismes et ses responsabilités politiques.
Comment est venue l'idée justement de faire ce sujet? Combien de temps il vous a fallu pour pouvoir réunir les protagonistes, les images d'archives et nourrir cette enquête finalement?
Alors l'idée, elle est venue du producteur qui est à côté de moi là aujourd'hui. Donc c'est à son initiative qu'on a fait ce film. Il nous a réunis, Denis Robert et moi, Denis Robert est comme co-scénariste du film et moi comme réalisateur. Et il a l'habitude de rappeler, et c'est une déchirure pour moi de dire, ça fait presque 6 ans maintenant qu'on a décidé de faire ce film. Non, mais concrètement, donc voilà, c'est une longue histoire. Ça a pris beaucoup de temps. La réalisation au sens propre a pris 2 ans et demi au moins. Voilà. C'est-à-dire vraiment le travail à la fois d'enquête, dans un premier temps d'enquête, d'écriture, et ensuite de montage et de fabrication du film.
On a vraiment l'impression que l'évasion fiscale, c'est pas un sujet qui date d'hier, mais même plutôt d'avant-hier, qui date depuis de nombreuses années. Il y a des déclarations tonitruantes qui font croire que effectivement les choses s'arrangent. Et quand on regarde le film, on s'aperçoit que non seulement les choses ne s'arrangent pas, mais s'aggravent plutôt dans ce domaine-là.
Oui, de ce point de vue-là, donc c'est un sujet d'hier, d'aujourd'hui évidemment, mais de demain. Enfin, c'est clairement encore un sujet de demain. Les mesures qui sont prises, notamment au niveau du gouvernement français, on peut le dire, ne vont pas dans le sens de contenir le phénomène qui, économiquement, à travers les statistiques, ce qui est connu, ce qui est étudié par les économistes, se renforce d'année en année, notamment quand on considère, on va dire, l'évasion fiscale des multinationales. Et ça, c'est un coût très très important pour les finances publiques, donc c'est un coût économique, c'est un coût politique et c'est un coût démocratique. Et c'est ce que le film essaie de démontrer et d'expliquer, voilà, au plus grand public, de façon, avec de l'humour, mais en essayant de donner une image justement assez complète d'un phénomène qui pourrait paraître justement complexe.
Et on s'aperçoit souvent que nos politiques sont mouillés jusqu'au cou et font des déclarations. Et quand on sait ce qui s'est passé après ces déclarations qui datent, évidemment, ça a fait beaucoup rire de monde dans la salle. Ça, je vous le garantis. On apprend même, Yannick, et ça, moi, je l'ai appris en regardant votre film, que par exemple, les pays qui sont inscrits sur une liste noire, non seulement elles n'ont aucune sanction, sont sur une liste noire, point. C'est juste une question de, on va dire, limite de paperasse. Mais qu'en plus, il suffit qu'elle fasse quelques promesses pour qu'elle soit enlevée de cette liste noire ou qu'elle y revienne si les promesses n'ont pas été tenues. Enfin, c'est un va-et-vient permanent de ces pays qui sont inscrits sur cette liste qui finalement ne sert pas à grand-chose.
Oui, la liste noire, ça fait partie un peu de ce discours politique. On prétend que parce qu'on va créer des listes officielles, alors chaque pays en fait, chaque organisme en fait, de paradis fiscaux, on va régler le problème uniquement en les désignant. Mais d'abord, effectivement, ces listes, elles sont très perméables, on va dire, aux tractations diplomatiques. Donc, en réalité, les principaux paradis fiscaux n'y figurent pas ou ils figurent quelques temps puis disparaissent. Donc, ces listes, elles sont extrêmement mouvantes. Elles correspondent pas du tout à la réalité du poids de ces territoires, de ces pays dans le phénomène de l'évasion fiscale, enfin comme acteur de l'évasion fiscale. Et puis, d'autre part, elle laisse entendre que derrière la fabrication de ces listes, il y a des sanctions, il y a des mesures qui sont prises, que désigner ces pays signifiait agir sur eux et faire en sorte qu'ils arrêtent de favoriser le secret bancaire ou l'évasion fiscale des multinationales. Or, il n'en est rien. En effet, de ce point de vue-là, la question des listes est vraiment une question de politique de communication. C'est plus un masque, c'est plus une manière de masquer le problème et de faire croire qu'on agit que une action politique conséquente. Voilà.
On apprend quelque chose d'autre aussi dans ce film qui est quand même important. Comment ils font pour passer d'ailleurs sous les radars de la médiatisation? C'est qu'il y a un paradis fiscal aujourd'hui méconnu, les États-Unis. Comment ils font pour passer sous les radars de la médiatisation et qu'aujourd'hui on le sache si peu?
Alors oui, c'est des phénomènes dont on dit toujours que c'est trop complexe. Donc ça n'intéresse pas les gens parce que c'est une affaire de spécialistes, c'est très technique, c'est de la fiscalité, c'est du juridique, etc. etc. Donc cette façon de parler de la question de la fiscalité internationale éloigne les citoyens du sujet. Donc ça, c'est un premier outil. Alors sur la question des États-Unis, évidemment, ce qu'on comprend dans le film, c'est que les États-Unis sont l'un des paradis fiscaux les plus toxiques à travers un certain nombre d'États qui accueillent accueillent l'argent des plus riches, le dissimulent, ont des taux d'imposition extrêmement concurrentiels par rapport aux autres pays. Donc des mécanismes classiques des paradis fiscaux agissent aux États-Unis. Mais plus cruellement, j'ai envie de dire, les États-Unis, par leur poids géopolitique et diplomatique, imposent au reste du monde ses propres lois d'une certaine manière. On l'a vu très récemment, pendant des années, les États-Unis bloquaient les initiatives au niveau du G20 et de l'OCDE pour réformer le système fiscal international. Dernièrement, à la faveur d'un changement de gouvernement, donc de l'administration Biden, ils ont accéléré un certain type de transformation. Mais quand on analyse un peu finement ce que les États-Unis ont rendu possible, notamment ce fameux impôt de 15% par exemple sur les multinationales, ça dissimule le fait qu'ils cherchent à travers ces réformes à favoriser leurs entreprises. Donc ils usent de leur poids géopolitique pour servir les intérêts des Américains et pas ceux du reste du monde, et notamment pas ceux des pays du Sud qui sont, on va dire, les plus impactés par le phénomène de l'évasion fiscale.
Vous avez envie d'en savoir plus? Eh bien, c'est le moment d'aller voir au cinéma ce 7 décembre La Très Grande Évasion, votre nouveau film, Yannick Kergoat. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez envie, voilà, d'aller voir un film qui va vous faire sourire et vous faire hérisser les cheveux sur la tête en même temps, eh bien, ça va être le moment de passer par tous ces états. Merci beaucoup et on va tout de suite se quitter avec la bande-annonce. À bientôt, Yannick.
À bientôt, merci.
Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse.
Il n'y a pas d'argent magique.
Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictifs.
Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne.
I think that actually more money is sitting offshore than ever before.
Les masses en jeu sont énormes.
That is total political crap.
Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore.
Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours.
De comptes à l'étranger,
600 milliards d'euros.
So I want to grab all that money.
Les Panama Papers.
Tax evasion is a sport that only the very rich can play.
C'est une machine à gagner du temps qui rogne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le grand honneur de recevoir Miss France. Oui, Diane Lair, à quelques jours de la remise de sa couronne, sera notre invitée exceptionnelle. On aura également le plaisir de recevoir Aziz Diabaté, il joue le rôle d'Enzo Lopez dans la série Ici tout commence. Et bien d'autres surprises, évidemment, vous attendent également dans Chute, on écoute la télé lundi prochain.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.